Tech & Co Business, l'invité.
Allez, notre invité, on va parler innovation, bien entendu, parce que c'est sa spécialité, Paul-François Fournier. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Directeur exécutif innovation chez BPI France. Mais aujourd'hui, ici en plateau, alors bien sûr, fort de cette expérience, alors chez France Télécom, Orange, pendant plusieurs années, et depuis 13 ans déjà, je disais hors micro, chez BPI France, pour cet ouvrage qui s'appelle « Innovation au carré », qui est aux éditions Anne Carrière, que je vous conseille. C'est la nouvelle fabrique de les grandes entreprises, c'est comment les grands groupes, enfin, l'idée c'est ça, hein, c'est comment les grands groupes doivent repenser leur façon d'innover. Première question justement, est-ce que là, quand on entend tout ce contexte géopolitique aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises ont parfois la tête ailleurs, ce qu'on peut bien comprendre hein, selon leur situation, il faut malgré tout qu'elles repensent leur façon d'innover?
C'est vrai que c'est difficile, il faut bien le reconnaître, pour avoir été, et puis pour nous, pour subir et voir au plus près des entrepreneurs les crises successives. C'est vrai que dans un monde où on regarde les actualités le matin fébrilement pour voir ce qui s'est passé la nuit, c'est compliqué de se projeter sur 5 à 10 ans. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut s'habituer à ce rythme de perturbation et il faut se redonner justement, je crois, des réflexions sur le temps long, parce que les fondamentaux, ils sont quand même, ils restent
avec une innovation galopante. Hein, quand on voit l'IA, notamment.
Voit l'IA, et c'est un des points importants, c'est qu'on voit que l'IA, en fait, va encore baisser la barrière à l'entrée de l'innovation. Mm-hmm. Le digital, c'est ce que j'explique un peu dans le livre. Le digital a changé la rapidité et le modèle avec la création des startups comme un modèle qui est en fait une baisse de la barrière à l'entrée qui a permis aux startups de rentrer sur ce marché ou sur ce potentiel. L'IA, en fait, va le décupler, puisque au fond, c'est le digital au carré, d'une certaine façon, et donc des entreprises vont pouvoir faire avec des coûts beaucoup plus faibles, beaucoup plus de choses, et les startups vont prendre une part de plus en plus importante.
Alors, c'est bien ce que dit cet ouvrage, hein, Innovation. Il y a une première partie qui est un peu le constat, et c'est bien parce que ça remet un peu les choses, on se dit, ah bah oui, tiens, j'y pensais plus à ça. C'est vrai, puis l'autre partie, c'est plus un guide, presque. Voilà un peu les étapes que vous pourriez voir. Enfin, réfléchissez à ces étapes-là et voyez si vous pouvez les appliquer dans votre entreprise. C'est un peu comme ça.
C'est ça, exactement. Donc, il y a effectivement une première partie qui est un peu l'histoire, où j'ai essayé de redécrire un peu le pourquoi du comment de cette révolution.
Mais qui est pas mal, hein, je répète, parce qu'au début, on se dit, oui, alors quand on baigne là-dedans, on se dit, oui, je connais. Mais finalement, on se dit, ah oui, tiens, je pensais plus à ça. C'est pas mal d'avoir
et qui permet aussi de prendre conscience, au fond, comme tu dis, on est baigné dedans, mais on prend pas toujours le temps regarder le recul de ce qui s'est fait. Et ça dit en particulier, c'est un des éléments, je crois, importants, que les startups, ça représente aujourd'hui plus de 20% de la R&D faite en France. Mm-hmm. Ça a doublé, en fait, en 10 ans. Et ce que j'ai essayé dans la deuxième partie, c'est essayer de répondre un peu à la question, parce que c'est vrai que les grands groupes ont essayé beaucoup de choses, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'échelle. Et donc, j'ai essayé de formaliser les différents outils principalement financiers.
Oui, parce qu'il y a quelques exemples qui marchent quand même.
Il y a quelques exemples.
Dans la biotech, dans la pharma,
exactement,
notamment.
Exactement. Les éléments que j'essaye de défendre, c'est que les grands groupes ont essayé des outils, mais l'ont pas considéré toujours comme un processus un peu cohérent dans ces différents outils.
Ils l'ont fait un peu à la marge,
ponctuellement, en prenant les outils. Mais en fait, il faut raisonner en termes de processus global. Ouais. Et donc, on voit bien que quand on fait du M&A, c'est plutôt le patron ou la direction financière. Quand on fait du scouting, des premiers POC, c'est soit le business, soit le directeur de l'innovation. Ouais. Moi, je crois que c'est en fait un processus, en réalité, sur lequel il faut avoir une gouvernance et une responsabilité et un budget. Et puis ensuite, le deuxième élément, je crois, important, c'est de se dire, en fait, si ça représente plus de 20%, et encore une fois, ça va passer à 30 ou 40% dans les années à venir avec l'IA, il faut commencer à raisonner quel est le pourcentage de R&D que je vais mettre dans ce nouveau processus. Mmh. Et j'essaye de dire que le 20% de part de R&D dans les startups, c'est un premier guide, entre guillemets, qui nécessite de mettre les moyens, qui va permettre aussi de dérisquer un peu ce monde des startups qui reste avec un niveau de risque élevé. C'est la physique du monde du VC, c'est-à-dire que au fond, dans un fonds de VC, vous avez deux boîtes qui vont cartonner, 5 ou 6 boîtes qui vont plutôt bien marcher correctement, et puis 5 ou 6 boîtes qui vont tomber. Il faut du coup du volume pour être capable de tomber sur ces 2 boîtes qui vont super bien marcher et 6 boîtes qui vont bien marcher. Et cette règle de la physique de ce monde du VC, de ce monde du capital risque, il faut l'intégrer dans les grands groupes qui ont pas du tout cette culture plus déterministe.
Oui, j'entendais, on avait Patrick Pouyanné sur l'antenne il y a quelques jours, là vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission en replay avec Laure Closier, où il disait mais moi investir dans les startups, je suis pas BPI France moi. Mais justement, faut
que alors il est pas BPI France, ce que je voudrais le convaincre, c'est qu'à un moment s'il veut réintégrer de l'innovation, il va bien falloir qu'il la réintègre et qu'il mette les moyens. Mmh. Et il fait de la R&D et il investit massivement quand même encore en R&D dans ses propres processus. Donc,
ils ont des laboratoires communs,
ils ont des laboratoires avec le CNRS, ils font des choses. La question, c'est juste qu'est-ce que j'affecte entre les deux. Mm-hmm. Mais à la fin, si vous laissez s'évaporer cette valeur, ce qu'ont fait la plupart des grands groupes ces dernières années, bah en fait, votre R&D, elle est moins efficace mécaniquement. Mais surtout, à un moment, il va falloir la réintégrer parce qu'il y a plein de choses qui se passent intéressantes et que les grands groupes peuvent valoriser parce que leur capacité de distribution, leur capacité d'industrialisation, leur capacité de
même
marketing,
un peu de 109 quoi. Parfois, et puis, ça fait un peu ça,
et puis effectivement un peu
même sans remettre en cause
un peu de 109 et un peu de nouvelles façons de travailler.
On sent que la difficulté parfois, et j'en avais parlé, on parlait du CNRS avec Antoine Petit à un moment, j'ai dit mais comment ça se fait que les chercheurs aussi forts soient-ils n'arrivent pas, et les entreprises aussi intelligentes soient-elles n'arrivent pas à mieux collaborer. Il dit parfois c'est des histoires d'agenda, de but. On a les chercheurs, ils vont dans une optique précise, l'entreprise va dire ah oui moi c'est le domaine dans lequel j'aimerais aller, mais là ce que vous faites vous en tant que chercheur, ça va, c'est trop pointu pour moi, et donc du coup ça m'intéresse un peu moins, j'aimerais que vous élargissiez un petit peu votre recherche, mais le chercheur dit ah oui mais moi ça se décale par rapport à mes travaux. C'est ça qu'il faut
retrouver. Je pense qu'on est en train de recréer une chaîne nouvelle d'une certaine façon, où on voit que les chercheurs ont déjà beaucoup évolué. Moi je suis au conseil du CNRS, je vois la transformation qui a été mise en place. Les chercheurs sont, pour la plupart, il y en a qui font de la recherche fondamentale, et c'est très bien, personne ne le remet en question. Mais il y a plein de chercheurs aussi, en particulier les plus jeunes, qui se disent, bah moi, si je peux avoir un impact dans la vie économique réelle, bah pourquoi pas. Et donc, cette transformation, elle s'est faite beaucoup. Et puis, il y a le développement des startups comme un nouveau vecteur. Mais à la fin, il faut boucler la chaîne. À la fin, les grands patrons de filières, c'est quand même les grands groupes. Et c'est eux qui vont avoir la puissance de feu pour distribuer mondialement et gagner. Et donc, il faut que toute cette chaîne, elle se réinvente avec ce nouvel acteur qui sont les startups, pour que, au fond, tout ça soit plus efficace et plus fluide. Et on a la chance, en France, d'avoir les grands centres de recherche, un écosystème de start-up qui commence à être puissant, et puis des grands groupes mondiaux. Donc, il faut juste qu'on arrive à trouver cette fluidité.
Et c'est ce que dans cet ouvrage, donc il y a un guide en plusieurs étapes, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, on a l'impression, voilà, les entreprises ont leur centre de R&D, et puis de temps en temps, elles accolent un peu, tiens, bah, cette start-up, on va travailler avec elle. Et c'est ça qu'il faut réussir. Il faut dire, mais non, ça doit faire partie de votre stratégie de R&D. Et c'est ça ce que tu as remarqué vraiment dans
moi ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant il faut passer à l'échelle et qu'il faut mettre les moyens, et donc il faut raisonner. Moi je crois qu'il faut se poser la question pour les grands groupes, je suis pas sûr que toutes les fées, quelle est la part de R&D qu'ils mettent dans l'investissement, l'acquisition, les achats, l'investissement dans les startups. Est-ce que ça représente 1, 2, 5, 10, 20? Voilà, je pense que cette première question de se dire, au fond, je regarde mon budget de R&D et je me dis entre ce que je fais avec ma R&D interne qui a toujours sa valeur et autres, et ce que je fais avec les startups, eh ben c'est une bonne manière de se dire est-ce qu'on est dans les bonnes métriques. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait cette transformation déjà. Bon, je parle des GAFAM et tous les acteurs du digital, c'est plus naturel pour eux. Mais les biotech, les pharma ont fait ça massivement. Les pharma, j'ai donné un certain nombre de chiffres.
Parce qu'ils étaient acculés, sinon, enfin de...
Je pense que, oui et non, pour moi, ils ont plutôt été en avance en comprenant qu'avec le digital et demain avec l'IA, la probabilité qu'ils trouvent toutes les molécules qui allaient dans leur propre labo était faible. Et que donc, il allait falloir qu'ils fassent un entonnoir pour réintégrer ces molécules dans leur boîte, pour leur donner ce qu'ils savent faire, encore une fois, une dimension industrielle, une dimension distribution. Et ces grands groupes de la pharma, ils raisonnent en pourcentage de R&D qu'ils mettent entre leur R&D interne et leur R&D externe, et c'est plutôt entre 30 et 50%.
Ce qu'il faut, c'est pas les opposer, c'est ça.
Non,
c'est une erreur.
Je pense qu'on veut les opposer. Je pense que les deux sont très complémentaires. Je pense qu'il faut juste réallouer et penser en processus et allocation de budget qu'on met sur ce nouveau processus. C'est pour ça que j'ai appelé ça innovation au carré.
On a un exemple d'ailleurs, alors c'est un exemple européen, mais qui nous intéresse un peu en France avec ASML, donc ces machines là pour fabriquer des microprocesseurs là très pointus, etc. Enfin, c'est une technologie incroyable qui s'est alliée avec Mistral, et justement, et Mistral est rentré dans les process industriels. Il y a eu un investissement, il y a eu évidemment un échange d'argent,
plusieurs centaines de millions d'euros, c'est massif. Donc ça, c'est un changement d'échelle. Il y a un très bel exemple dont on parle un peu en ce moment, qui est en fait Wondercraft avec Renault.
Oui.
Un groupe industriel, historique, qui a investi dans Wondercraft pour faire des robots qui vont permettre de porter des charges lourdes.
Des exosquelettes.
Il vient de commander 350 robots pour ses usines. C'est complètement game changer pour Wondercraft, parce que ça donne une visibilité et une crédibilité à leur solution. Et en même temps, pour Renault, ça leur donne une avance technologique et un savoir-faire qui est très important. Et par ailleurs, ils sont actionnaires, donc ils vont profiter de cette création de valeur. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Je crois qu'il faut juste commencer à se dire, bon, bah, maintenant, comment on déplace ce curseur pour passer de 1-2% de ma R&D à peut-être 10, demain 15, et à terme, probablement 20, avec l'arrivée de l'IA.
Ouais, mais c'est important. C'est cette histoire, de regarder le pourcentage de dépenses en R&D et puis savoir un peu où on va, c'est important. Merci. Paul-François Fournier, donc ce livre s'appelle Innovation au carré aux éditions Anne Carrière. Voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, en ligne aussi, bien entendu. Et je vous le conseille vraiment parce que ça fait réfléchir pour tous ceux qui veulent innover intelligemment, sans opposer son département de R&D à des startups. Voilà, il y a quelques belles pistes, en tout cas, dans cet ouvrage. Merci
d'être
venu nous en parler.